carnet de campagne. Bonjour, nous parvenons au terme de cette semaine parisienne avec un petit salut amical et confraternel à deux journalistes, William Buzy et Baptiste Gapen, qui ont fait le choix de mettre en ligne les seules informations constructives qui ressortent des actions et initiatives de nos contemporains. Alors si on les appelle parfois journalistes de solutions, ce qui me plaît pas trop, parce que ça veut dire que les autres seraient des journalistes de problèmes, la démarche entreprise par Baptiste et William est une vraie bouffée d'air à base de reportages et d'enquêtes sur tout ce qui améliore notre vie en société. Leur site, c'est lapartducolibri.fr. Dernière porteuse d'une très humaine initiative, Layette Louaille, primée comme les autres cette année au Trophée Parisien de l'ESS pour sa remarquable association Un regard pour toi, à lire en parallèle l'article de Laurent Gibowski dans les pages numériques de La Vie. Et puis nous sommes totalement solidaires de la grande opération Restez à l'écoute que France Inter soutient depuis ce matin avec la Fondation Abbé Pierre et l'association des Enfants du Canal dirigée par Christophe Louis, second invité de ces carnets.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Ayette Louaille, bonjour.
Bonjour.
Ayette, aussi lauréate des trophées ESS de Paris récemment, c'était au mois de novembre, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes la présidente de l'association Un regard pour toi, c'est génial ce que vous avez inventé en 2014. Dites-nous pourquoi vous avez inventé Un regard pour toi.
Alors j'ai créé Un regard pour toi en juin 2014. Donc l'objet de l'association, c'est d'accompagner les personnes déficientes visuelles.
Comme vous.
Comme moi, c'est ça, parce que moi-même je suis malvoyante. Pour tout ce qui est en lien en fait avec l'apparence, comment gérer son image et son apparence quand on la voit pas. Donc c'est voilà, l'idée elle est partie de ma situation et j'ai souhaité monter ce projet pour permettre à des déficients visuels d'accéder à l'habillement facile et accessible, notamment pour identifier les vêtements, voilà, ça, faire du shopping aussi en toute autonomie.
Et donc c'est un bénévole qui va accompagner la personne dans son cheminement et son shopping.
Oui, c'est ça. Donc c'est un bénévole qui est soigneusement sélectionné, qui accompagne les personnes malvoyantes. Donc déjà c'est des personnes qui aiment le shopping, hein, ça c'est important. Mmh. Et voilà, qui partage en fait son regard et ses yeux pendant quelques heures lors d'une session shopping avec un adhérent pour lui expliquer un peu les tendances, les couleurs, comment lui va le vêtement. Donc avoir un peu ce regard neutre et objectif.
Il faut qu'il y ait de la confiance entre les deux.
Absolument. C'est pour ça que avant d'organiser une séance shopping, il y a un matching en fait qui se crée, c'est-à-dire que le bénévole, donc comme je vous expliquais, on le recrute en entretien pour apprendre un peu à mieux le connaître, savoir un peu quelles sont ses préférences, s'il est plus à l'aise pour conseiller des femmes, des hommes, etc. Et aussi un entretien avec l'adhérent pour qu'on puisse connaître ses attentes et savoir comment on peut l'accompagner par rapport à son habillement et après se créer la relation de confiance qui s'installe entre les deux.
On peut aller sur la page Facebook, il y a des vidéos, on voit les bénévoles. Ils veulent accompagner et tout de suite, évidemment, on devient copain ou copine parce qu'il y a une relation de proximité. Vous avez inventé un sacré procédé aussi d'étiquetage pour reconnaître les vêtements, la couleur. Parce que quand on ne voit pas le lavage, on ne va pas se faire un pull à 60 degrés.
Exactement. C'est vrai que notre objectif, c'est vraiment de rester proche des attentes de nos adhérents. Et c'est vrai qu'à travers les séances de tri, eh bien, ils nous ont dit, bah oui, mais bon, c'est compliqué de reconnaître les couleurs, d'identifier le style, le degré de lavage. Donc il existe des choses, par exemple comme le colorino, mais le colorino c'est pas tout à fait fiable en fait, ça dépend de la luminosité.
C'est quoi le colorino?
Le colorino c'est un appareil pour reconnaître les couleurs, mais c'est pas fiable en fait. Et ça c'est... Du coup nous on a voulu inventer un procédé qui est plus précis et qui est sûr aussi. Donc il y a plusieurs choses en fait. On a des étiquettes en braille, donc où vous allez avoir plusieurs informations, donc le degré de lavage, la couleur, le style, la description du vêtement aussi, la marque également du vêtement, etc. Donc c'est vraiment du sur-mesure, c'est des étiquettes selon les besoins des adhérents. Et aussi on a découvert en fait une puce NFC, et en fait avec un smartphone et une application, ça va nous permettre donc d'enregistrer les informations. Par exemple, on va dire voilà, j'ai un pull beige, je peux l'associer avec telle ou telle chose. Donc c'est des informations qu'on va enregistrer sur la puce et qu'on va coudre au vêtement pour que ça tienne au lavage. Donc c'est des choses qu'on a testées, donc les étiquettes en braille ça tient, et la puce elle est étanche, donc elle tient aussi au lavage.
Ayette, c'est une très très bonne idée, mais est-ce que c'est valable à Paris, mais dans d'autres villes?
Alors, on est notre siège est à Paris, notre activité est en Île-de-France, on a d'autres antennes qu'on est en train de développer, notamment à Lyon, Toulouse, Montpellier et Lille, mais c'est vrai que par rapport au procédé, pour l'instant, on va le proposer qu'aux gens en Île-de-France, parce que ça demande une certaine proximité limité, mais effectivement, nous, notre objectif, c'est d'étendre notre activité et d'essaimer sur d'autres territoires. Et pour ça, on a besoin de plus de ressources financières et humaines pour gérer dans d'autres villes en France.
Je pense que vous allez les trouver parce que vous êtes très convaincante et c'est une très belle idée. Et vous avez des développements à l'horizon, un horizon assez proche, avec l'ouverture d'un lieu d'accueil et entre autres un pôle couture.
Effectivement, donc là, on a pour nos projets futurs, en fait, on est à la recherche effectivement d'un grand local qui soit bien situé au cœur de Paris pour que ce soit accessible pour les personnes déficientes visuelles. Et c'est un lieu de convivialité, donc où on aurait un espace effectivement couture, bon pour accueillir aussi nos adhérents, et un espace aussi coworking. Et c'est un espace qui serait dédié aux déficients visuels, mais aussi aux voyants, pour permettre la mixité des deux publics, ce qui nous semble très important en fait. Donc on a la recherche de financement pour pouvoir subventionner ce local, donc en 2018 on espère.
Il vous faut combien de mètres carrés?
Alors nous, vous savez...
C'est Noël, on passe la commande au Père Noël.
Oui, c'est Noël, alors je vais vous le dire, parce que voilà. Alors nous, on est très... Vous savez, on a des grandes idées, donc on a toujours de nouveaux projets. Donc là, on recherche un local entre 150 mètres, à peu près 100 et 150 mètres carrés, quoi.
Pour joindre l'association Un Regard pour Toi, tradeunionasso.fr, l'association Un Regard pour Toi, ça c'est la page Facebook, et vous allez trouver sur le site YouTube aussi des vidéos concernant cette belle association présidée par Ayette. Merci Ayette.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Je signale encore deux autres prix de ces trophées 2017 de l'économie sociale et solidaire à Paris. D'abord, les alchimistes qui pratiquent le compostage en ville, compostage de déchets alimentaires, biodéchets. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est plus neuf et moins fréquent, c'est le compostage électromécanique qui est pratiqué ici. Alchimiste.co. Et puis, juste récompense aussi attribuée dans le cadre de ces trophées à la conciergerie solidaire née à Bordeaux qui se propage dans d'autres villes, dont Paris. Il s'agit d'une offre multiservice faite aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités. Celle de Paris présente la particularité de réserver la réalisation de ces tâches à des personnes sans emploi ou handicapées, ainsi qu'à des prestataires issus directement de l'ESS. Conciergerie-solidaire.fr pour l'adresse. À nos côtés, Christophe Louis, bonjour.
Bonjour.
Christophe, bienvenue pour cette grande opération annuelle. Restez à l'écoute. Alors nous, on se sent vraiment dans notre bain et dans notre milieu avec vous. Les enfants du canal, tout d'abord, explication, l'association est une émanation des enfants de Don Quichotte.
Oui, en 2006-2007, des tentes sur le bord du canal Saint-Martin, quelqu'un qui revendique le droit à l'hébergement pour toutes les personnes à la rue. Et de là est née une petite association avec des personnes qui étaient sur le bord du canal, avec des bénévoles qui intervenaient et puis des travailleurs sociaux. Et l'idée, c'était de réfléchir ensemble comment mieux prendre en charge les personnes à la rue.
Les enfants du canal ont donné de la voix, et tant mieux, enfin les enfants de Don Quichotte, pardon, ont donné de la voix, et une voix qui était très politisée, qui n'a pas toujours été très bien entendue. Et peut-être fallait-il passer à l'action et à l'initiative de terrain pour être mieux entendu.
Tout à fait. Les associations revendiquaient beaucoup de choses et quelqu'un un jour a décidé d'aller, de jeter des tentes sur le bord du canal et d'affronter les pouvoirs publics. Ça a été un bras de fer pendant l'hiver 2006-2007. C'est un bras de fer qui a permis la mise en œuvre du droit au logement opposable, un droit au logement qui était dans les cartons. Mais il a fallu ce rapport de force pour que les politiques, et notamment le président de la République, s'en emparent et disent « on va faire passer la loi ». Pour les personnes sans-abri, ça aussi, ça a été le développement de nombreuses places d'hébergement pour éviter que les personnes vivent et meurent à la rue.
Alors, les enfants du canal sont des maraudes, il y a un bus d'accueil de jour, le bus-abri, espace de repos, la collation, et surtout une présence humaine, il y a un travail d'hébergement, d'accompagnement vers le logement, d'insertion, de scolarisation des enfants. Mais alors, il y a un double souci aujourd'hui. Il y a toujours des personnes à la rue, mais des personnes, les SDF, mais aussi des migrants, de plus en plus de migrants. Comment on gère, mauvais mot, mais comment on gère toute cette population, cette détresse?
Ce qui est important, c'est de prendre en compte toutes les personnes qui sont à la rue. Il n'y a pas de sélection à faire, qu'ils soient originaires d'Europe, originaires de extra-communautaire européen, qui soit à la rue depuis longtemps en France, c'est de résoudre correctement le problème de l'hébergement et surtout le problème du logement, parce qu'on parle de l'hébergement, l'hébergement n'est que quelque chose qui doit être temporaire. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens aux personnes d'avoir un logement et de pouvoir vivre dignement, notamment avec ses enfants, de façon à pouvoir les scolariser, à les faire vivre, etc. Donc nous, on se bat pour ça. C'est un combat qui est très difficile, mais c'est un engagement politique qui doit y avoir derrière. C'est nos politiciens, c'est ceux qui font l'économie de la France qui doivent s'engager derrière ça pour permettre à chacun de vivre correctement.
Rester à l'écoute, ça veut dire cette année 2000 postes de radio qui vont être distribués. Comment vous allez gérer
Alors oui, dans le cadre de cette action-là, c'est 2000 postes radio qui sont distribués partout en France, dans une quarantaine de villes, Marseille, Lille, Limoges, Montélimar, etc. On essaye d'être un peu partout et d'aider des équipes de maraudes, des gens qui viennent donner un peu de temps pour apporter un peu de chaleur aux personnes. Eh bien, au moment de Noël, on s'est dit, voilà, on va les soutenir et on va leur offrir des postes radio. Alors évidemment, ça ne donne pas un logement pour les personnes. Hein. C'est juste à un moment de Noël se dire que bien participons avec eux à un moment de paix et autres pour que ben, ils puissent entendre au quotidien ce qui se passe et qu'ils puissent être reliés au monde, qu'ils puissent être encore inclus dans une société qui a tendance à les rejeter de plus en plus.
Christophe, le poste est bloqué sur France Inter.
Oui, tout à fait. Oui. On s'est dit que c'était le mieux cette année.
On peut pas écouter Europe 1.
Ben non, cette année, on est en partenariat avec France Inter, donc on reste sur France Inter. Non, justement, c'est ça qui est amusant, c'est qu'avec les personnes, on écoute tout. Et c'est un outil de dialogue avec les personnes avec qui on avait du mal à parler. Eh bien, en mettant la radio, en écoutant quoi que ce soit, eh bien, on pouvait démarcher. Hein, c'était la musique, ça peut être des chanteurs, comme ça peut être du football. Et puis d'autres, c'est juste France Bleu, parce que France Bleu, ça permet d'avoir la météo très vite se couvrir.
Exact, exact. Alors, ça fonctionne à base de dynamo ou d'une plaque solaire, ça coûte 16 euros qui proviennent de dons, exclusivement.
Grâce à votre soutien, grâce au soutien d'autres partenaires, eh bien, on arrive à financer 2000 radios en France. Alors 2000, c'est peu de choses, mais depuis 6 ans que nous le faisons, ça fait à peu près plus de 10-12 000 radios qui ont été distribuées, et on est assez content de cette opération-là.
Avec la Fondation Abbé Pierre.
Et la Fondation Abbé Pierre qui soutient.
Lesenfantsducanal.fr, n'hésitez pas, 16 euros pour rester à l'écoute des personnes qui sont à la rue et qui ont besoin non seulement d'informations, mais de liens. Il y a un lien direct humain, mais il y a aussi le lien direct qui est une manière aussi d'entretenir une relation avec le monde par l'intermédiaire du poste de radio. Merci Christophe Louis.
Merci à vous.
Pour l'ultime semaine de l'année, nous serons dans la Sarthe. Merci à Anne Liorot qui réalisait les carnets, à Lise Amchin qui leur apportait du contenu. Merci aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur donnaient du son comme Nicolas Delmas aujourd'hui.